Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous présenter professeur Hubert Balic, qui est un ami de longue date, qui est un homme exceptionnel par son enthousiasme et son énergie et tout ce à quoi il a œuvré sur le terrain. Il se définit comme un artisan de la santé publique, c'est vraiment donc un praticien, mais un artisan de la santé publique. A fait des choses, a fait des expériences très novatrices dans le domaine des systèmes de santé. Il a travaillé 37 ans au Mali et dans plusieurs autres pays africains, une quinzaine d'autres pays africains, a occupé différents postes, spécialiste des systèmes de santé, conseiller technique auprès du ministre, conseiller régional santé pour les ambassades de France, donc en Afrique de l'Ouest. Hubert, bienvenue au Collège de France, c'est très gentil et on est très content de t'accueillir aujourd'hui. Hubert Balic est aussi maître de conférence à la faculté de médecine de Marseille et je lui donne la parole tout de suite. Alors, comment réduire enfin la mortalité maternelle?
Merci Dominique. Ma première confrontation avec la mortalité maternelle, c'était en 1969, au moment où les Américains, l'homme a posé le pied sur la Lune. À ce moment-là, j'étais étudiant en médecine, et dans un village de Haute Volta, ça s'appelait Haute Volta à l'époque, j'étais confronté avec cette réalité, avec ce drame. Et c'était une jeune fille de 14 ans peut-être, qui venait de passer 3-4 jours en travail. On m'a appelé dans une case, j'y suis allé. Elle est morte peu de temps après. Et tout au long de ma vie, je me suis retrouvé confronté, comme la plupart des médecins qui ont pratiqué en Afrique subsaharienne, à cette réalité-là, et qui constitue véritablement un scandale de notre époque. Nous sommes là maintenant, 44 ans plus tard. Il y a encore 500 000 femmes qui meurent. Parfois même, c'est un autre terme qui me vient à l'esprit, plutôt crever, parce que c'est ce que j'ai vécu lorsque je me suis retrouvé confronté à cette réalité-là en tant que médecin, mais dépassé par des événements qui s'étaient déroulés avant que les personnes n'aient recours à mes services. Alors, ceci dit, comme l'a dit Dominique, et je l'en remercie, je reste, après toutes ces années passées, à travailler au contact des populations et au niveau des différentes instances nationales ou internationales. Je suis conscient de tout le chemin qui a été parcouru, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui pourrait encore être fait. Donc je reste d'un très grand optimisme par rapport à l'avenir. Donc, réduire enfin la mortalité maternelle, une perspective à la portée des pays, je le crois profondément, ce ne sera peut-être pas facile, mais c'est à notre portée. Alors, la mortalité maternelle, d'abord, de quoi s'agit-il? Simplement, c'est le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la cause. Et bien sûr, ce ne sont pas concernés les accidents de la circulation ou d'autres événements de ce type. 500 000 décès maternels actuellement par an, dans le monde, dont 50% en Afrique subsaharienne. Et, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut le considérer comme un des grands scandales de notre époque. La répartition des taux selon les pays des taux de mortalité maternelle, comme vous le voyez, la plupart des 40% des pays sur les 180 pays que compte le monde ont un taux de mortalité supérieur à 100 pour 100 000 naissances vivantes. Un pays comme la France, on est à peu près à 8 pour 100 000 naissances vivantes, et le pays qui a le taux de mortalité maternelle le plus élevé serait le Tchad. Alors j'ai mis des réserves par rapport aux spécialistes de la mesure de la mortalité maternelle, il y en a dans la salle, ces chiffres sont hautement discutables. Ces chiffres sont hautement discutables, en tout cas dans les pays d'Afrique subsaharienne, et on voit les ajustements qui peuvent être faits par l'OMS. On a un gros travail à faire pour affiner cette mesure. Ceci dit, les ordres de grandeur sont des réalités. Donc encore 40% des pays où le taux de mortalité maternelle est supérieur à 100 pour 100 000 naissances vivantes, et ce taux dépasse 1000 pour 100 000 naissances vivantes, semble-t-il. Alors, dans le monde, eh bien, c'est l'Afrique qui domine 50% des décès maternels. Le risque pour une femme, lorsqu'elle accouche, de mourir est de 1 sur 22 en Afrique subsaharienne, alors qu'il est de 1 sur 7300 dans les pays développés. Donc il y a un ratio de 1 à 330. Voilà donc là un élément d'une réalité. C'est cette réalité-là qui est totalement choquante. hein, et dont, justement, il est important de, qu'il est important de prendre en compte. Et donc, on voit sur cette carte du monde, la part de l'Afrique qui est rouge, hein, et qui montre véritablement que c'est là que ça se passe. Alors, cette mortalité maternelle est répartie de façon à l'intérieur de l'Afrique, de façon très inégale. Comme vous le voyez, entre le Gabon d'un côté et le Tchad, il y a de grandes différences. Ce qui veut dire que ce n'est pas une unité. L'Afrique n'est pas une réalité à prendre dans sa globalité. Il faut l'aborder dans la réalité de chacun de ces pays et de porter des analyses propres à chacun de ces pays. Ça me permet, c'est l'occasion pour moi de porter une petite réflexion sur cette question qui me paraît importante. Lorsqu'on travaille sur le terrain, l'un des grands dangers, c'est la globalisation, d'arriver avec des solutions qui ont été pensées avec beaucoup de compétences, certes, mais qui ne cadrent pas avec une réalité. Chaque pays a sa spécificité. Et même dans un pays, je prendrai l'exemple du Mali, dont on parle beaucoup en ce moment, hein, même à l'intérieur du Mali, il n'y a pas une réalité malienne. Et pour être efficace, pour travailler de façon avec des résultats certains, eh bien, il faut tenir compte de cette réalité. Malheureusement, les approches que nous avons sont beaucoup trop globalisantes. Et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'employer un terme dans un ouvrage dirigé par Dominique Arouédan, dans lequel je parle de soviétisation de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'aborder l'aide comme celle que j'ai, dont je me rappelle autrefois lorsqu'on voyait des grandes conférences de soviets, où on avait des solutions pour sauver la planète. Il est important d'avoir des réflexions globales, mais il est important aussi d'avoir des réponses locales. Donc toujours sur, ce terrain de l'analyse par rapport aux différents pays, eh bien on voit, et là, les données que j'ai pu obtenir à partir des chiffres disponibles, hein, et encore une fois avec les réserves que l'on doit apporter à la mesure du taux de mortalité maternelle en Afrique, où il n'y a pas pour la plupart de recensement des décès. Hein, ce sont des estimations qui sont faites avec des méthodes qui sont encore fortement discutables. Eh bien, on voit qu'au-delà, en deçà de 2500 dollars par habitant et par an, en matière de PIB par habitant et par an, il n'y a pas de lien direct entre le taux de mortalité maternelle et le PIB par habitant. Et dès qu'on franchit cette étape, alors là, on voit une chute, d'emblée, une chute globale qui se fait, et les taux de mortalité maternelle deviennent, alors à ce moment-là, beaucoup plus bas, bien qu'il reste encore pour l'Afrique élevée. Mais on voit bien cette différence qui existe entre des pays pauvres, les plus pauvres, et des pays qui ont commencé à amorcer leur développement, parce que le facteur économique est un facteur important dans l'approche de cette réalité-là. Un exemple qui me paraît important à avoir à l'esprit, c'est celui qui nous rappelle que dans un pays comme la Suède, le taux de mortalité maternelle a chuté de façon très régulière à partir de 1750, avec un certain nombre de progrès qui ont été enregistrés. Et en 1750, on a commencé à voir apparaître les techniques obstétricales, avec l'apparition des forceps notamment, et c'est à ce moment-là que le taux de mortalité maternelle a baissé. Et ensuite, dans les années 1850, on a commencé à parler de limitation des naissances, qui a commencé à devenir une réalité. Il y avait moins de grandes multipares, par exemple. 1900 est arrivée l'asepsie, on venait de dépasser l'ère pasteurienne, et l'asepsie a commencé à ce moment-là à rentrer véritablement dans la pratique obstétricale. Et puis, dans les années 50, sont arrivés les antibiotiques. Tout ça a contribué à la chute de cette mortalité maternelle, qui n'est pas une fatalité. Alors, lorsqu'on parle de certaines maladies pour lesquelles on n'a pas d'armes efficaces, là, on a une maladie pour laquelle on sait pertinemment ce qu'il faut faire. Hein, le problème, c'est comment le faire. Mais on sait ce qu'il faut faire. On ne peut pas dire que c'est que la médecine est dépassée par cette réalité-là. Alors, je donne également un exemple. Tout à l'heure, donc, je parlais de problèmes économiques. Et si on prend un cas comme un pays comme le Sri Lanka, eh bien, on voit une chute tout à fait importante de la mortalité maternelle. Entre 1945 et 2005, le Sri Lanka n'est pas un pays particulièrement développé. Son PIB par habitant tourne autour de 5 800 dollars US dollars par habitant et par an. Donc on est dans un pays vraiment qui n'est pas du côté des grands pays développés. Et là, on a vu aussi dans ce pays-là, grâce à un engagement politique, une diminution extraordinaire, puisqu'on était au-dessus de 1 600 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, et aujourd'hui on est autour de 30 pour 100 000 naissances vivantes dans ce pays. Voilà donc l'importance de ce drame qui est la mortalité maternelle. Maintenant, en matière de lutte, Donc, la lutte contre la mortalité maternelle, indiscutablement, elle a suscité une mobilisation de la communauté internationale. Et là, je vous ai donné quelques exemples des conférences qui ont été menées sur cette question et qui sont essentielles. Ne voyez pas dans mes propos tout à l'heure sur la globalisation une remise en cause de ces grandes mobilisations qui sont faites et qui doivent être faites au niveau international, parce que c'est comme ça qu'on arrive à aborder ces questions. Donc ça a commencé dans les années 76, et la dernière, je crois, celle qui est la plus récente, est le sommet du G8 de Muskoka, où des dispositions très concrètes ont été prises pour pouvoir aborder cette question. Les objectifs du millénaire pour le développement ont fait de la lutte contre la mortalité maternelle le cinquième objectif. Le cinquième objectif, après la réduction de la mortalité des enfants et avant la lutte contre le VIH-SIDA, le paludisme, la tuberculose et d'autres grands fléaux. La cible des objectifs du millénaire pour le développement, d'ici 2015, était de réduire des trois quarts le taux de mortalité maternelle de 1990. Et lorsque les bilans sont faits, bon, il faudra attendre encore quelques années, mais on voit qu'on en est encore très loin en ce qui concerne la mortalité maternelle, et c'est certainement l'objectif qui aura le plus de difficultés à être atteint d'ici l'échéance 2015. Non pas que les autres puissent l'être de façon globale, mais en tout cas celui de la mortalité maternelle, c'est celui pour lequel on a eu les résultats les moins probants. Et donc ça montre bien justement ce décalage qu'il y a entre un engagement de la communauté internationale et les réalités et un drame qui a du mal à évoluer. Alors cet engagement de la communauté internationale, il s'est traduit à travers une mobilisation financière importante. Donc vous voyez que entre 2000 et 2009, l'aide publique au développement a atteint près de 20 milliards de dollars, ça c'était des chiffres de 2009, et alors qu'en 2000, au début des années 2000, elle n'était que de 6,5 milliards de dollars. Ce qui concerne la santé de la reproduction, les financements qui ont été dédiés à la santé de la reproduction et au planning familial pendant cette même période sont passés d'une proportion de 17% en 2000 à 9% en 2009. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est important à reconnaître. Ça peut se discuter, encore une fois, l'analyse doit tenir compte du fait qu'il y a des facteurs qui ne sont pas directement liés à la santé de la mère et de l'enfant et qui vont agir sur la mortalité maternelle, notamment, en particulier, les questions relatives à l'éducation, puisque l'un des facteurs importants, c'est l'éducation. Mais comme Dominique l'a dit tout à l'heure aussi, il y a tous les aspects liés au système de santé dans son propre développement, dans les questions relatives au transport, aux communications, qui sont des éléments essentiels. Donc, lorsque on fait de telles comparaisons, il faut être extrêmement prudent et tenir compte de tout ce qui peut être mis sous le chapeau de santé de la reproduction, qui ne peut ne pas être mis. Et donc, fort de tous ces engagements, eh bien, on voit là les effets que ça a pu avoir à partir, encore une fois, des indicateurs qui circulent. En Afrique subsaharienne, au moment des années 90, le taux de mortalité maternelle en Afrique subsaharienne était estimé à 870 pour 100 000 et il était en 2008... de 620 pour 100 000. Donc, des résultats, mais qui sont encore loin de l'objectif qui était de réduire des trois quarts la mortalité maternelle et qui devait le situer autour de 220 pour 100 000. Donc, on voit que lorsqu'on se retourne sur ce qui s'est passé, eh bien, malgré tous les efforts, malgré tous les engagements, eh bien, les résultats n'ont pas été à la hauteur. Quelles sont les causes des décès maternels et les stratégies de lutte qui ont été mises en œuvre depuis lors? Alors, au niveau des causes de la mortalité maternelle, la première, et je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que parfois, quand on travaille sur le terrain, on a l'impression que ce sont les ruptures utérines. Les femmes meurent de ruptures utérines. Elles meurent d'hémorragie. Et l'hémorragie, ça va très vite. Lorsqu'une femme a un problème de dystocie, on a un peu de temps devant soi. On n'en a pas beaucoup, mais on en a un petit peu. L'hémorragie, ça ne pardonne pas. Hein, et pourtant, les gestes qui permettent de sauver la femme sont simples. Hein, moi, je pense que là aussi, tout praticien a eu ce genre de à vivre ce genre d'événement où, encore une fois, vous passez dans un village et puis vous vous trouvez devant une femme qui est en train de saigner. Eh bien, sans hésiter, eh bien, même si on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire, on se lave la main, abondamment, et puis on va aller faire une révision, une extraction utérine artificielle pour permettre de juguler l'hémorragie, et ensuite on prend la femme pour éviter qu'elle ait une infection. Donc la première cause, c'est les hémorragies, qui donc nécessitent une réaction extrêmement rapide. Ensuite viennent les infections, les éclampsies, donc ces complications néphropathie gravidique, qui représentent 12% des décès, les dystocies, donc liées à une disproportion fœto-pelvienne liée à un bassin rétréci, en particulier à l'âge. Lorsqu'une gamine se retrouve enceinte à 13 ans, la nature n'est pas faite pour que ça se passe normalement, malheureusement, dans beaucoup de cas. Et puis les avortements. On n'en parle pas beaucoup. J'appartiens à la génération de gens qui ont eu à affronter cette question de l'avortement en France, avant la loi Simone Veil. Question certainement délicate sur certains aspects, mais cette réalité de l'avortement dans les villes africaines est quelque chose d'inimaginable, dont on ne parle absolument pas. Personne ne parle de cette question-là, et c'est un vrai, véritable drame. Et donc on apprend parfois à la radio que telle jeune femme est morte de courte maladie. Personne ne sait de quoi il s'agit. On ne veut surtout pas aborder cette question, parce que, encore une fois, on sait les problèmes que ça a posé chez nous, en France. Hein ? Et donc, voilà une réalité cachée qu'il ne faut pas oublier parce que ça fait partie de la mortalité maternelle. Là aussi, quel drame que ces filles désespérées, hein, parce que la famille, elles ne peuvent même pas en parler chez elles, hein, se retrouvent comme ça, à mourir. Là aussi, encore une fois, le terme qui me vient à l'esprit, excusez-moi de le dire de façon, c'est crever. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Alors, une autre conséquence de ce problème qui est lié à la mortalité maternelle, c'est les fistules obstétricales. Bon, alors oui, effectivement, ce sont des femmes qui ne meurent pas, mais ce sont justement ces femmes qui ont eu la chance de s'en sortir et qui vont se retrouver avec une communication entre vagin et vessie et parfois entre vagin et rectum. Vous imaginez hein, l'état d'esprit de cette jeune femme qui est tombée enceinte, qui est heureuse, parce que souvent ce sont des primigestes à qui ça arrive, qui est heureuse pour elle de tomber enceinte, c'est vraiment tout ce qu'elle espérait, et puis qui va se retrouver après son accouchement, auquel elle a survécu, avec cette fistule, et qui va se faire totalement rejeter par la société. Simplement, je fais une petite parenthèse. Comment ça se passait en France autrefois ? Dans la littérature, on n'en parle jamais. Ça n'existait pas. Pourtant, ça existait. Et ça a existé comme ça existe aujourd'hui en Afrique. Parce que, à l'époque, oui, effectivement, quand on parle de fistule obstétricale, on parle de pipi, on parle de caca. Et ça, ça ne se dit pas. Ça se cache. Combien de jeunes femmes ont dû se retrouver quelque part en disant « Oui, notre belle-fille ou notre fille est folle » ou je ne sais pas quoi, parce qu'il ne fallait pas la montrer. Parce que c'est immontrable. Et lorsqu'on travaille, on fait des enquêtes, on ne les voit pas, ces femmes. Et il a fallu une intervention, ça je tiens à le dire, parce que mes amis est là, ici, de Médecins du Monde, le travail qu'a fait Médecins du Monde là-dessus, pour faire sortir les femmes qui souffraient de ces fistules obstétricales dans la région de Mopti. Et je rends hommage au docteur Robin, qui a été l'initiateur de cette démarche, et qui est malheureusement décédé peu de temps après, et qui justement a montré qu'en créant une offre de soins, eh bien, on suscitait une demande auprès de femmes qui vivaient leur réalité dans ce drame. Il n'y a pas d'handicap, me semble-t-il, plus grave que ça, quand on se retrouve à 15 ans avec une fistule obstétricale. Et on va devoir la vivre pendant des décennies, rejetée par son mari, rejetée par sa famille, et on peut imaginer tout le reste. Et il y aurait dans le monde plus de 2 millions de femmes qui souffrent de cette pathologie, et à peu près 50 à 100 000 fistules nouvelles par an. Et donc, ce sont ces femmes pendant lesquelles l'enfant est coincé pendant plusieurs jours, et puis finalement, ça finit par sortir. Mais la compression qui a été entraînée par la tête de l'enfant va entraîner cette pathologie. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler, parce que, fort heureusement, aujourd'hui, ce problème de la fistule obstétricale est pris en compte. Je me rappelle en avoir parlé avec la première dame du Mali en son temps, ça devait être en 2002-2003. En plus, c'était une Peul, et les Peuls sont réputés comme étant très, très, très pudiques, particulièrement pudiques. Et quand j'étais venu la voir pour lui proposer de s'engager sur ce problème de la fistule obstétricale, elle m'a dit « Mais comment puis-je en parler? Comment puis-je parler de ça? On ne peut pas parler de ces choses !» Hein, et puis, fort heureusement, plusieurs années après, eh bien, un engagement s'est fait. Et fort heureusement, aujourd'hui, les initiateurs qui ont été notamment Médecins du Monde, justement, peuvent dire qu'ils ont fait un sacré boulot en montrant le chemin. Maintenant, le gros problème de la fistule, il faut la traiter, on est d'accord, mais il faut la prévenir aussi. Et on retombe dans le problème de la mortalité maternelle. Alors, les solutions par rapport à ce problème de la mortalité maternelle et des fistules. Alors, des solutions techniques, il y a trois mesures médicales qui sont directement liées à notre pratique. C'est la planification familiale. Je crois que c'est quelque chose dont il faut parler. Et on voit aussi les liens qui existent entre l'importance de l'indice synthétique de fécondité et cette mortalité. Je prends l'exemple du Niger, l'exemple du Mali, qui sont des pays qui ont les chiffres records dans ces domaines. Et bon, ben, allez. Voilà un domaine important et qui n'est pas simple. Les consultations prénatales, elles ont un rôle important pour prévenir toute la pathologie de la grossesse et dépister des infections et identifier les grossesses à risque. On a mis l'accent pendant longtemps sur les consultations prénatales c'est une solution parmi d'autres, mais le gros problème, c'est la sécurisation de l'accouchement. Hein, ça, c'est la troisième. Faire en sorte que lorsqu'une femme accouche, eh bien, elle puisse bénéficier de toute la sécurité que peut apporter l'environnement obstétrical que nous connaissons et que connaît la médecine. Et puis, il y a trois mesures sociétales, si je peux me permettre. C'est l'élévation de l'âge au mariage, jusqu'à 18 ans. Alors, je me permets de dire ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, le Mali avait voté un code de la famille qui a été voté par le Parlement. Et il y a eu immédiatement une réaction des mouvements islamistes qui sont actuellement actifs dans ce pays. Mais c'était l'une des premières manifestations publiques de cet islamisme montant et qui s'est opposé au code de la famille et le chef de l'État a eu peur. Il y a eu une grande manifestation avec plus de 50 000 personnes dans le grand stade de Bamako. Le chef de l'État a eu peur. Bon, moi, de mon point de vue, je pense qu'il aurait mieux valu qu'à ce moment-là, il y ait un affrontement parce que là, on a ouvert une autoroute. Donc c'était un rejet d'un code de la famille qui avait été accepté par des parlementaires musulmans, bien sûr, que la plupart des intellectuels trouvaient comme tout à fait normal, hein, et qui portait sur des questions comme l'âge au mariage, comme l'héritage, et puis aussi comme le fait que pour se marier, il fallait d'abord aller chez le maire avant d'aller voir l'imam, parce que c'est la seule façon de vérifier que l'âge au mariage est bien respecté. Hein, parce qu'on a aussi des mariages qui se font même à distance. On peut marier une jeune fille de 14 ans avec une personne qui se trouve au Canada ou en France. Hein, et puis, voilà comment les choses se passent. Donc, c'est un problème de société, de la même façon que la planification familiale, c'est un problème de société, hein, d'être en mesure d'aborder ces questions-là qui ne sont pas des questions simples. Et puis, l'augmentation de la scolarité des filles. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. C'est là que se trouve la solution de beaucoup de choses, parce que le jour où les femmes prendront véritablement en main ces problèmes, hein, eh bien, je pense qu'il va se passer des choses, parce qu'elles-mêmes, ça les concerne directement, et ça concerne leurs filles et leurs petites filles. Donc, on a là des éléments qui sont des éléments, à mon avis, essentiels pour aborder cette question. Alors, les approches stratégiques. Il y a d'abord deux barrières qui apparaissent tout de suite lorsqu'on veut aborder cette question. La première, c'est la barrière géographique, hein, le rôle de la distance. Bon, lorsqu'on est dans une ville, là, le problème ne se pose pas en premier lieu. L'aspect est beaucoup plus lié aux autres barrières et aux autres réalités, notamment les questions relatives à la qualité des soins dans les établissements de santé. Problème géographique, eh bien, il y a, surtout lorsqu'on en est dans des pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Tchad, qui sont des pays de vastes pays, où une grande partie de la population vit à plus de 10 km d'une formation sanitaire. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, elle est financière. Et la majorité de la population peut être considérée comme pauvre. Et je crois que le chiffre, c'est de 69%, donc 70% de la population qui vit actuellement avec moins de 2 US dollars par personne et par jour. Donc voilà une deuxième contrainte qui va être une deuxième barrière au problème pour aborder cette question de la lutte contre la mortalité maternelle. Alors, les stratégies qui ont été mises en œuvre, et la première, enfin en tout cas celle sur laquelle je me permets d'apporter une attention et qui justifie un peu mon plaidoyer, si je peux employer ce terme, c'est la protection de l'accouchement au village. Et pour ma part, lorsque j'ai fait ma formation en santé publique, j'avais une Bible qui était un livre écrit au Niger par Guy Bellonc et Georges Fournier, qui s'appelait Santé et développement en milieu rural, et dans lequel on parlait des accoucheuses traditionnelles, de toutes les formations, des soins de santé primaire, etc. Moi, ça a été ma Bible pendant longtemps. Et ce qui m'a amené ensuite à m'investir sur cette question-là et à former, à participer pendant plus de 10 ans à des formations d'accoucheuses traditionnelles. J'y croyais profondément. Donc, on a des femmes qui font les accouchements. L'accouchement se fait partout. Et on va essayer de leur apprendre, à travers des notions simples, à améliorer les pratiques obstétricales et à évacuer, à référer les femmes qui étaient en difficulté, à les identifier, à les référer. Ça, c'était la première stratégie qui a été développée. La deuxième, alors, c'est celle qui est développée aujourd'hui et qui est portée par les Nations Unies et la plupart des techniciens gynéco-obstétriciens, c'est la promotion des soins obstétricaux d'urgence. Et pour assurer la sécurité des soins, dans les formations sanitaires, ce qu'on appelle les SOUB, soins obstétricaux d'urgence de base, ou bien dans les hôpitaux, les soins obstétricaux d'urgence complets. Et troisième stratégie, la gratuité des soins. C'est un terme dont on parle beaucoup depuis plusieurs années. Hein, à l'heure actuelle, il y a tout un mouvement pour pouvoir dire que les gens ne peuvent pas se soigner et donc il faut leur permettre d'accéder aux soins en dehors de toute tarification. Mais il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances liées au système de santé. Il ne suffit pas simplement d'accéder à une formation sanitaire, il ne suffit pas d'avoir une gratuité de soins, il faut trouver sur place des soins qui répondent à certains critères. Et on doit dire qu'il y a un problème relatif à la qualité des soins dans les formations sanitaires. C'est un vrai problème qui a été développé, fortement analysé par les équipes de socio-anthropologues de Olivier de Sardan, Yannick Jaffray, hein, qui sont je vous invite vraiment à lire le livre de Yannick Jaffray, La bataille des femmes, hein, qui aborde cette question-là et qui montre l'importance de ce problème. Puisque quand vous avez des maternités dans des capitales africaines, c'est pas une question de... La question géographique ne se pose pas. La question financière, oui. Elle se pose. Elle se pose encore. Hein. Mais il y a surtout un problème de qualité du service. Et alors, quand on parle de qualité des soins, ben on parle aussi de gestion. Hein, puisque la qualité, c'est bien sûr tout un ensemble de pratiques, mais c'est aussi une organisation, une façon de gérer. On a besoin d'avoir des médicaments au bon moment. On a besoin d'avoir un personnel qui est là, un personnel qui est motivé, un personnel qui est formé. Tout ça, ça fait partie des éléments du système et ça rentre dans une vision managériale des choses. Et donc, l'insuffisance de ressources humaines, hein, qui sont des points clés aujourd'hui, et les insuffisances de la régulation. Donc, nous allons voir un petit peu ces différents aspects. En ce qui concerne donc la protection de l'accouchement au village, encore une fois, je me permets de venir sur cette question-là parce qu'aujourd'hui, hein, là, j'étais encore au Mali il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à faire le point sur ce qui se passait. Il y a encore des programmes, et là, je donne vraiment ma conviction profonde pour avoir beaucoup travaillé sur cette question, qui tentent justement à valoriser l'accouchement au village. Hein, et je pense qu'il faut s'interroger sur cela parce que nous avons 40 ans plus de 40 ans devant nous, derrière nous, qui nous donnent un recul pour apprécier cette question. Donc pour ça, on a formé des accoucheuses traditionnelles, donc les expériences du Niger, du Mali, il y en a eu beaucoup d'autres, donc ces femmes qui sont, depuis de génération en des générations, qui sont amenées à accompagner les parturientes, et puis de façon plus récente, la formation de femmes relais. Ça, on est aujourd'hui dans la formation de femmes relais. Alors bon, pour moi qui ai travaillé sur les soins de santé primaire il y a 40 ans justement, On a l'impression un peu de voir Sisyphe avec son rocher. Et il n'y a pas de capitalisation des expériences. Combien de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers d'agents de santé de village ont été formés dans le passé ? Et les résultats sont ceux que nous pouvons constater aujourd'hui. Donc il y a des questions qu'il faut se poser, mais bon, bien souvent, ben, on a la solution, on fonce. Hein, on a la solution, on fonce. Et je crois qu'il y a à s'interroger, encore une fois, je n'ai pas la prétention d'avoir une solution quelconque, je pose simplement des questions en me disant, mais attendez, ça, on l'a fait très souvent, et malheureusement, les réalités d'aujourd'hui montrent que ça n'a pas été très efficace. Alors, cette protection de l'accouchement au village, pour moi, je n'engage que moi, pour moi, c'est une réponse qui n'est pas probante. Qui n'est pas probante, donc on a 40 ans de recul dans les pays d'Afrique subsaharienne et en particulier dans les pays sahéliens. Ça résout les problèmes de distance et les problèmes financiers, c'est clair, c'est vrai que ça résout les problèmes de distance et les problèmes financiers, mais ça n'apporte pas de sécurité des accouchements. Il n'y a pas de compétences pour faire face aux urgences. Hein, et le fait de dire on va former une accoucheuse traditionnelle ou une personne, c'est un leurre. C'est facile à faire pour dire on a formé tant de gens. Ça, oui, on peut le mettre dans des statistiques. Et alors, on a assuré la couverture. Hein, mais pour quel résultat ? Et il y a un problème pour les références sur les hôpitaux. Une femme qui accouche dans un village et qui fait une hémorragie, même s'il y avait quelqu'un de présent dans le village, ben, le temps qu'elle arrive au centre de santé, qui n'a pas de transfusion sanguine, et ensuite qu'on puisse la référer, mais elle est morte. Donc, voilà des points qui méritent véritablement une réflexion. Et un autre aspect, c'est que lorsqu'un pays s'engage sur l'accouchement au village, eh bien, ça va limiter le nombre d'accouchements à la maternité. Ah ben oui, le docteur a dit qu'on pouvait accoucher au village, mais les femmes, elles préfèrent accoucher au village. Elles sont dans leur environnement, elles trouvent une quiétude. Si jamais, personne n'a jamais vraiment envie d'aller dans une maternité ou d'aller on n'y va pas par obligation. Mais si on vous donne le choix, ben vous préférez rester chez vous, dans le milieu affectif et avec tout ce que vous apporte comme protection psychologique, le fait d'être chez soi. Hein, et donc, cette réponse non probante, elle laisse croire qu'il y a une sécurité alors qu'elle n'y est pas. Les accoucheuses traditionnelles, alors, lorsqu'il y a un accouchement normal, il n'y a pas de problème. 9 fois sur 10, ça se passe bien. Et donc, combien de femmes peuvent dire « Ah oui, mais moi, ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elles ont accouché au village avec des accoucheuses traditionnelles. Et elles ne sont pas mortes. » Ben oui, elles ne sont pas mortes. Elles étaient dans le bon lot. Hein, mais dès qu'il y a un problème, c'est là que ça se passe. Et il n'y a pas, donc, comme je le disais tout à l'heure, pas de compétences en cas de complications obstétricales. Et je l'affirme ici pour avoir vraiment, hein, je ne peux rien dire d'autre que cela. Travailler avec je peux même dire peut-être plus d'une centaine d'accoucheuses traditionnelles de façon directe dans les villages, ces femmes n'ont pas de rôle obstétrical. Elles n'ont pas de rôle obstétrical en dehors de la section du cordon. Le rôle, c'est un rôle rituel. C'est l'intervention de la société avec sa vision cosmogonique dans un acte dangereux. Hein ? L'accouchement en milieu bamana, ça s'appelle Moussokele. Il y a une métaphore qui dit Moussokele, la guerre des femmes. C'est ce terme qu'a repris Yannick Jaffray en parlant de bataille des femmes. Ce terme, on le retrouve aussi chez les Djamas au Niger. C'est dans l'esprit des gens, ben, lorsqu'un homme va à la guerre, ben, il y en a qui meurent. Et lorsqu'une femme va à la guerre, à sa guerre à elle, ben, il y en a qui meurent. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la guerre. C'est la guerre. Hein ? Et ces femmes-là sont là, de même que lorsque les gens vont au combat, eh bien, on les prépare. Un soldat bamanan, lorsqu'il allait se battre, eh bien, il se préparait. Son père lui donnait des habits qui allaient le protéger, on lui faisait prendre des bains, il avait des amulettes, il y avait des sacrifices qui étaient faits, il y avait toute une protection pour protéger cette personne, pour que cette personne puisse revenir de la guerre. Hein, vous savez, si on lit les lettres de nos... Moi, j'ai celle de mon grand-père, et puis les lettres de nos anciens de la guerre de 14-18... Providence, les prières, etc. Tout ça, ça fait partie de la vie. Bien, les accoucheuses traditionnelles, elles sont quelque part, entre guillemets, les personnes qui sont déléguées par la société pour accueillir cet enfant, pour protéger l'enfant, pour protéger la maman, pour protéger l'enfant et faire que ça se passe bien. Et donc, cette vieille accoucheuse traditionnelle, elle apporte sa chance. Elle porte sa chance. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très important dans cette vision des choses. Kunadia, en Bamanan. C'est quelque chose de très, très important. Ben, cette femme, justement, c'est elle qui a accouché ma maman, c'est elle qui a accouché ma grand-mère, ou bien elle a accouché ma voisine, elle a accouché mon amie. Donc, cette femme, elle a de la chance. Et puis, elle apporte aussi les connaissances qu'elle a acquises à travers son initiation. Elle a des incantations, hein, et qui se transmettent de génération en génération. Donc, pour pouvoir justement apporter ces éléments permettant justement à ce que cet acte extrêmement dangereux dans l'esprit des gens, Musokele, eh bien, puisse se passer dans les meilleures conditions. Ensuite, les soins obstétricaux d'urgence, bon, ben, ça repose essentiellement sur la formation du personnel en soins obstétricaux au niveau des dispensaires, des centres de santé, des maternités et au niveau des hôpitaux. Hein, donc, il y a un ensemble d'éléments qui sont d'ordre très technique, hein, pour les soins obstétricaux, les antibiotiques, les anticonvulsivants, donc toutes ces séries de réponses qui peuvent être faites. Pour les soins complets, c'est essentiellement la césarienne et la transfusion sanguine. Donc, il va falloir faire en sorte que la personne référée puisse bénéficier de ces deux éléments fondamentaux. Donc, et ce qui est absolument indissociable de ces soins obstétricaux, c'est la référence. C'est le fait de pouvoir transférer la personne qui va pouvoir bénéficier de ces soins-là, ce qui pose des problèmes dans des pays où l'accès, ou les routes, ou pendant l'hivernage, ou les rivières, les marigots se gonflent. Et cependant, les soins obstétricaux, c'est une réponse probante. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très clair. C'est ce qui doit être fait, hein, parce que c'est là que se trouve la solution au problème de la mortalité maternelle. Alors là-dessus, deux problèmes, c'est que 2 accouchements sur 3 ont lieu en milieu rural, dans des pays comme le sahélien, 2 accouchements sur 3 ont lieu au village, et donc là-bas, il y a les sous et les souks. Alors on a parlé de soins élémentaires, etc., mais on retombe dans la problématique des accoucheuses et des relais. Et la grande question qui se pose aussi, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est la non-maîtrise de la qualité des soins et de la gestion des formations sanitaires. Il y a là un vrai problème qui est en train d'être abordé. Alors, la gratuité des soins, pratiquement tous les pays ont adopté la gratuité des césariennes. Voilà une bonne mesure qui a été prise et qui a fait ses preuves, parce que donc elle a montré qu'avec en supprimant cet obstacle financier, eh bien, on est arrivé à augmenter de façon très significative, doubler même davantage parfois le nombre de césariennes qui sont faites, à tel point que dans certains pays, je crois que ça pose même des questions, parce qu'on se retrouve avec des taux de césariennes qui dépassent ce que l'on voulait attendre, dans la mesure où, ben, à partir du moment où il y a un tiers payant, ben, il y a des gens pour faire des césariennes, parce qu'on va les rémunérer. Et donc, ça entraîne un petit peu à avoir le geste un peu rapide. Donc, la gratuité des césariennes est une excellente réponse, parce qu'elle supprime cet obstacle. La gratuité des consultations prénatales, la gratuité de la planification sanitaire, la gratuité même des accouchements, pour moi, pour la personne, ce sont des choses qui s'imposent. Si on veut avoir des résultats, le tout de savoir comment on va le faire. Et donc, cette gratuité des soins, c'est une approche probante. Et là-dessus, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. La personne qui est très engagée dans cette analyse, c'est Valérie Ride, hein, de Montréal. Et puis, Médecins du Monde qui a travaillé là-dessus. J'ai eu la chance de travailler avec eux au Niger, hein, qui ont fait un travail, qui sont engagés vraiment sur cette question de la gratuité et qui ont montré ce que l'on pouvait en attendre. Et ça, c'est absolument indiscutable. Ça supprime la barrière financière, ça augmente le recours aux formations sanitaires de façon très significative, mais il ne faut pas oublier le fait que, malgré tout ce qui est fait, il y a des surcoûts. Ces surcoûts ont été analysés récemment, encore une fois, par les Canadiens, par l'équipe de Pierre Fournier, qui ont montré, par exemple, au Mali, dans la région de Kaï, il y avait, en plus de la gratuité de la césarienne, etc., les femmes devaient payer en plus 72 000 francs CFA, d'après leur étude, en moyenne. Et ça, c'est une somme considérable, hein, par rapport à dans le contexte de ces pays. Et alors, il y a d'autres approches par rapport à la gratuité. Et moi, pour ma part, c'est vers ça que je me tourne. Hein, on va en parler un petit peu là. C'est les approches basées sur le tiers payant. Basées sur le tiers payant, c'est-à-dire l'assurance maladie, les mutuelles, les fonds de solidarité et le forfait, ce qu'on appelle le forfait obstétrical, et qui a été expérimenté en Mauritanie. Et donc, ce sont tout ça des éléments à prendre en considération. Non pas en venant avec une solution toute faite, en disant « moi, je suis adepte de ci, moi, je suis adepte de ça », mais au contraire, de savoir que tout ça fait partie des outils que l'on peut utiliser pour pouvoir aborder cette question. Alors, au niveau des insuffisances dont je parlais tout à l'heure, alors que je reviens sur ces points importants, insuffisance de la qualité des soins dans les formations sanitaires, qualité dans ces deux dimensions, qualité humaine, l'accueil, l'écoute, le respect, hein, et là, vraiment, en lisant le livre de Jaffray, on est édifié sur des choses que tous les médecins savent, hein, mais on n'en parle pas. Le grand avantage de cette équipe, c'est d'avoir écrit tout ça. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Mais la façon d'être accueilli, la façon d'être respecté, il se passe plein de choses, hein, au moment des, lorsque la femme se passe, arrive dans un accouchement, dans une maternité, à moins qu'elle ait payé la personne qui va s'occuper d'elle. Ça change tout. Hein, ça change tout. Donc, qualité humaine, qui est un élément essentiel, et puis la qualité médicale, ben, le savoir-faire, l'application des soins obstétricaux, travailler avec tout ce que nous apporte comme connaissance l'obstétrique. Alors, des insuffisances dans la gestion des établissements de soins, manque de formation en gestion à tous les niveaux, ça c'est un vrai problème, c'est une priorité. Certainement, si on veut qu'il y ait des résultats en matière d'amélioration des soins, il faut travailler sur le management, même depuis le petit centre de santé, le centre de santé communautaire, et ne parlons pas des hôpitaux. Vaste problème, mais ce problème est tout à fait abordable, ça demande de la compétence de la part de ceux qui vont l'initier, et de savoir convaincre les politiques de l'intérêt que eux, en tant que politiques, ils ont à se heurter à des lobbies. À des lobbies. En particulier, le lobby médical, qui constitue en soi, hein, et en particulier, dans le problème des hôpitaux, ben, le professeur X, le professeur Y, malheureusement, je ne dis pas tous, hein, je ne dis pas tous, mais malheureusement, on fait acte de présence, et on part dans sa clinique. Et hop, on laisse derrière soi. Et puis chacun fait la même chose. Hein, l'exemple vient d'en haut. Eh bien, finalement, c'est la femme de ménage presque qui fait l'accouchement parce que tout le monde n'est pas là. Et on n'est pas là parce que... Et elle a fini par apprendre, hein, comme ça. Elle a fini par apprendre, puisqu'elle voyait ce qui se passait. Elle dit, ben, au fond, faire des accouchements, c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. Quand ça se passe bien, ça, c'est pas difficile. Ah, mais quand ça se passe mal. Voilà toute la réalité. Et puis, c'est moins cher, parce que quand on veut se faire aider par une personne, on est en blouse, alors on ne sait pas qui vous êtes. Hein, bon, voilà, on peut même gratter un petit peu d'argent pour pouvoir compléter ces problèmes familiaux, hein, puisque les personnels de santé, ce sont des parents qui ont des besoins d'argent. Ils ont besoin d'argent, les parents. Et ça, ce problème de la rémunération des personnels de santé, voilà un problème fondamental. Il faut l'aborder de front. On ne fait pas la morale aux gens, pas cette morale-là. Hein, ah oui, c'est des fonctionnaires, ils sont payés. Non, ce n'est pas la réponse. Hein, ça, c'est dans un monde idéal, mais on n'est pas dans Bisounours ici. On est dans la réalité du terrain. Et donc, problème lié à la gestion, problème des ressources humaines, l'insuffisance des formations, ça, je crois que c'est une réalité sur laquelle beaucoup de choses peuvent être dites, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. La sous-qualification des professionnels de santé, alors avec un problème bien connu, le problème des sages-femmes. Le problème des sages-femmes, c'est vrai que quand on est sage-femme, eh bien, on ne part pas en brousse. Mais non, on est sage-femme. Hein, donc, bon, mais je me rappelle quand j'enseignais dans une école de sage-femme, toutes les belles voitures qui attendaient le soir pour venir chercher ces dames, ces demoiselles à l'époque qui allaient devenir les dames, hein, les sages-femmes, c'est pour les patrons. Ce sont des réalités sociales. Hein, ce sont des réalités sociales qui sont là. Donc, le statut de la sage-femme, c'est quelque chose de particulier. Donc, de travailler sur ces questions-là me paraît quelque chose d'important. Mais il y a des perspectives qui sont favorables. La création d'écoles de sage-femmes. Aujourd'hui, les écoles de sage-femmes se multiplient. De plus en plus, il y en a qui sont en train de se créer à l'intérieur des pays. Et bien sûr, ça va avoir des conséquences sur l'image de la sage-femme elle-même, puisqu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus le même type de sage-femme que l'on a devant soi. Et ça va permettre à des personnes de pouvoir rester près de chez elles et d'y retourner plus volontiers. Donc, la création des écoles de sage-femmes constitue une réponse, à mon avis, intéressante. Et qui va avoir aussi des effets sur le nombre de sages-femmes formées. Ce nombre est en train d'évoluer, ce qui fait que l'hypothèse sage-femme reste une hypothèse extrêmement intéressante, hein, ce qui n'empêche pas de s'interroger aussi sur d'autres aspects. Moi, je défends assez l'hypothèse des infirmières obstétriques, des infirmières polyvalentes, infirmières polyvalentes, parce que ça c'est historique, hein, on forme des infirmiers, on forme des sages-femmes. Ben, vous savez, quand je suis médecin, comme la plupart des médecins, on a appris à faire des accouchements et on a appris à s'occuper des malades. Eh bien, lorsqu'on est infirmier dans un centre de santé périphérique, on a besoin de savoir tout faire. Et donc, il faut, au lieu d'avoir des sages-femmes et puis des infirmiers, et que, il faut avoir des agents polyvalents. Donc, voilà une hypothèse de travail qui me paraît importante, mais ça nécessite de créer de nouveaux cursus, etc. Donc, mais ça, je me permets de le mettre parce que je crois, je suis persuadé même qu'avec une approche comme celle-là, on doit avoir des résultats tout à fait significatifs. Et puis, je ne pourrais pas ne pas parler des médecins de campagne parce qu'il est écrit partout, encore une fois, que les médecins en Afrique, ils ne veulent pas aller en brousse. Hein, que ben c'est pas vrai. Lorsqu'il y a des propositions qui sont faites, eh bien, on peut arriver à faire en sorte que des médecins, non fonctionnaires, hein, j'entends, hein, non fonctionnaires, décident délibérément d'aller s'installer dans des villages, travailler dans les centres de santé pour y exercer leur pratique. Et là, il y a une ONG qui est très engagée sur cette question, qui est l'ONG Santé Sud, qui a fait de l'installation des médecins de campagne un de ses chevaux de bataille. L'expérience a été initiée au Mali, elle a continué à Madagascar, elle se poursuit au Bénin et actuellement elle va démarrer probablement, dans le cas du Muskoka, en Guinée. Et puis d'autres pays commencent déjà à s'intéresser à cette approche. Donc nous pouvons partir avec l'idée que dans les années à venir, hein, eh bien, nous aurons des médecins sur l'ensemble du territoire. Ceci dit, alors, quand je dis médecin, ce n'est pas lui tout seul, il a besoin d'une équipe. Mais vous savez, quand... on a un médecin dans une circonscription sanitaire et qui est capable de prendre en charge l'ensemble des problèmes avec ses collaborateurs, infirmiers, infirmières, etc. Ça, c'est déjà une tranquillité considérable pour quelqu'un qui a sa famille dans ces conditions-là. Et puis les insuffisances de la régulation du système de santé, eh bien ça, c'est un système de santé, ça se régule et il faut des évaluations régulières qui soient faites, des établissements de soins, de la qualité des soins, de toutes ces analyses relatives aux coûts de production. Et tout ça, il y a de grandes faiblesses dans ce domaine, et puis des faiblesses dans la mesure des indicateurs de coûts, parce que, vous savez, en France non plus, on n'a pas une connaissance très précise de la notion de coût qui est rentrée dans nos systèmes il n'y a pas très longtemps, hein, dans les hôpitaux, il n'y a pas très longtemps qu'on commence à parler de ces choses-là. Il est important de savoir ce que ça coûte à la production pour pouvoir prendre des décisions. Et ça, malheureusement, notre culture française, en tout cas, n'est pas très avancée dans ce domaine. Et même les médecins n'aiment pas beaucoup qu'on aille sur ce terrain-là. Alors, le plaidoyer, ben oui, je me permets justement de faire un plaidoyer sur cette question-là. Deux grandes options stratégiques. La première, c'est une option en faveur de l'accouchement en maternité accrédité. Accouchement en maternité accrédité. Pas seulement à maternité. Il faut que la maternité réponde à des critères. Et deuxièmement, suppression de la barrière financière. Trois conditions préalables. Une carte sanitaire qui doit être bien conçue, une méthode d'accréditation pour les centres, les maternités, pour les hôpitaux, et une grande campagne de mobilisation des populations autour de cette question. Les accouchements en maternité accréditée, ça signifie la venue des femmes en fin de grossesse à proximité de la maternité avant le début du travail. Avant le début du travail. On n'attend pas que le travail se fasse au village, c'est trop tard. Il faut que la femme... Donc il faut s'organiser pour que les femmes soient présentes à côté de la maternité pour pouvoir être là et que la maternité puisse faire face à tous les problèmes. Alors comme je le disais tout à l'heure, les femmes sont parfaitement conscientes de la gravité de la situation. On ne parle pas de la mort en couche. On n'en parle pas. Hein, on n'en parle pas. C'est quelque chose... Il y a des mots que l'on ne prononce pas. Lorsque quelqu'un part à la guerre, on n'imagine pas, on ne parle pas du fait qu'il risque de mourir. Ce serait quelque part jeter un mauvais sort. Quand quelqu'un est dans un avion, moi, quand mes enfants sont dans un avion, je suis inquiet. Ben oui, mais j'en parle pas. Ben là, c'est pareil, on ne parle pas de ces choses. Et pourtant, on le sait au fond de soi-même. Et là-dessus, lorsque on dialogue sur ces questions-là, eh bien, il y a une oreille attentive. Alors, lorsque la femme va venir, eh bien, elle doit être accompagnée, il ne faut pas qu'elle soit seule. Et il est souhaitable... Il est hautement souhaitable que l'accoucheuse traditionnelle vienne avec elle, qu'elle vienne avec elle, qu'elle l'accompagne pour être présente avec elle, pas pour faire les actes obstétricaux qu'elle ne connaît pas, mais pour apporter cet apaisement, pour apporter cette tranquillité. On est en confiance et on sait que ça va bien se passer parce que notre maman est là. Et donc, pour y arriver, eh bien, il faut prévoir l'hébergement des femmes à proximité de la maternité. Et là, il y a trois possibilités qui s'offrent. La première, c'est d'aller chez des parents ou des amis, quand on en a. La deuxième, c'est qu'il y ait des familles qui disent, ben oui, on les sollicite en disant, oui, ben moi, je peux très bien, dans le fond de la cour, de mettre une case, et puis on va rémunérer la famille, hein, s'il le faut. Ça fait partie des charges. Il n'y a pas de raison que quelqu'un le fasse comme ça. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'il faut imaginer que les gens ne sont pas dans une réalité d'échange. Donc, famille volontaire ou bien des maisons d'attente. Alors, dans le monde anglophone, moi, j'ai retrouvé 14 ou 15 pays qui ont eu une expérience en matière de maisons d'attente, de permettre justement d'accueillir les gens, les femmes, avant qu'elles ne viennent. Notamment au Maroc, avec des résultats extrêmement intéressants, justement. On dit aux femmes enceintes, n'attendez pas le dernier moment. Et vous imaginez, dans les zones sahéliennes, ce dont on parle aujourd'hui, Gao, Tombouctou, etc., qu'est-ce qu'on fait? On a des personnes qui vivent à distance, parfois 100, 150 km. Eh bien, le message à faire passer, c'est celui du... Le message qu'on doit dire, c'est il y a possibilité de protéger, de donner à votre épouse, de donner à votre parente toutes les conditions, c'est de venir avant. N'attendez pas la fin de le terme de la grossesse pour pouvoir aborder cette question de l'accouchement. Faites en sorte que l'accouchement se passe à proximité. Et à ce moment-là, on aménage ces maisons d'attente. Et dans le Nord, ça peut être des espaces où une famille peut mettre une tente et peut rester en attendant que l'accouchement arrive. Bon, voilà, moi, je me permets de le dire de façon très, très claire. C'est mon option personnelle. Après avoir défendu le contraire pendant très longtemps, pour ça que je parle de plaidoyer et je peux être parfois un peu passionné sur ces questions-là, c'est que j'ai dit le contraire pendant très longtemps. Je me dis, c'est une erreur. Et c'est lorsque je suis arrivé au Niger j'ai redécouvert un autre pays, je me suis retrouvé devant cette réalité en disant, non, là, on fait fausse piste. Alors, la suppression de la barrière financière, bon, trois possibilités, toujours dans le cadre du tiers payant. Alors, pour moi, gratuité des soins, ça n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui paye. Ça me paraît impératif. Quand je suis arrivé au Mali la première fois, en 1975, dans mon travail, j'ai dans l'hôpital, j'ai posé la question... ça coûte combien pour se faire, pour lorsqu'on est hospitalisé? Ah ben non, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est la loi qui le dit, c'est gratuit. Et on a droit à quoi? Ben à rien, puisqu'on n'a rien. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben on paye. On paye en solofin, comme on dit, en par-dessous. Donc il y a tout un système, alors on va acheter des médicaments, on aurait pu les avoir en générique, achetés à des prix très bas et de qualité, et puis on va aller amener la personne à aller acheter les médicaments dans la rue, trois fois plus cher que si elle les avait achetés sur place, d'une qualité totalement, d'un doute complet, ou en spécialité à la pharmacie. Voilà des problèmes réels qui sont là et qui doivent être abordés dans ce cadre-là. Donc, cette gratuité, dans le cadre du tiers payant, elle peut se faire soit de façon totale par la loi, donc, et là, il faut créer, c'est un plaidoyer que je fais aussi, un fonds de paiement du service public que l'État achète, je vois mon ami Philippe qui est là, achète les services qui ont été rendus dans le cadre du service public de santé. L'État est acheteur. Mais il faut qu'il ait pour ça une structure, une organisation qui soit mise en place. Ou bien alors, les systèmes de protection sociale, pratiquement tous les pays sont en train de se mettre dans cette réalité-là. De système de protection sociale pour tous. Les pays, en tout cas, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Niger, tous sont en train de rentrer sur ce terrain-là. Et ça va prendre du temps, c'est clair. Et là, il y a trois axes, en général, que l'on distingue. L'assurance maladie obligatoire, ça c'est essentiellement pour le secteur formel, donc les gens qui travaillent pour l'État ou qui travaillent dans le cadre d'entreprises privées, ou le secteur informel, donc ça ce sont plutôt les mutuelles qui sont adaptées à cette réalité, et les personnes démunies, des fonds de solidarité. Et pour la troisième possibilité, celle qui a été expérimentée en Mauritanie, et qui me paraît très intéressante, c'est le forfait obstétrical, où à la première consultation prénatale, la famille paye un carnet qui va couvrir toute la période jusqu'à la fin de la période néonatale, jusqu'à la fin du premier mois après l'accouchement. Tout est pris en charge par ce forfait qui est là. Ce forfait doit être subventionné. Lorsqu'on fait une petite simulation, pour un pays comme le Mali, si on prend un forfait pour trois quarts des accouchements, c'est quand même assez conséquent, 75% des accouchements, ça reviendrait à 10 milliards de francs CFA, soit trois dépenses de santé du pays qui sont de l'ordre de 320 milliards. Donc on est dans des choses qui sont tout à fait réalistes. Il appartient à chaque d'analyser le contexte pour voir la bonne solution. Concernant la carte sanitaire, ben voilà, je vous ai donné un exemple. On ne voit pas très bien les limites, mais il faut qu'un district sanitaire, qui est comme celui de Douenza, dont on a parlé malheureusement récemment avec les événements du Mali, soit subdivisé. Donc c'est un district qui fait à peu près 200 000 habitants, soit divisé en aires de santé, et pour chaque aire de santé, il y a une formation sanitaire. Ces formations sanitaires doivent être accréditées. Ces accréditations traduisent le respect de normes de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est tout à fait... malheureusement, on a traîné pour le faire. Hein. Il ne suffit pas d'avoir une maternité. Faut-il encore que cette maternité soit capable d'eux, hein. Et alors là-dessus, bon, une proposition qui peut être faite, c'est de classer les maternités, comme je l'ai fait là tout à l'heure, avec plusieurs couleurs. Les rouges, ben, c'est celles qui ne sont pas accréditées. Ça veut dire qu'on sait que là, ça ne va pas. Ben, celles qui sont jaunes, ça veut dire que la structure est là. La structure est là. Il y a les bâtiments, il y a les équipements, etc. Celles qui sont bleues, avec celles qui sont bleues là-haut, eh bien, il y a la structure, donc elles sont jaunes, plus les procédures, plus les procédures. C'est-à-dire que toute l'organisation est faite pour que les soins soient de qualité. Et les vertes, c'est celles pour lesquelles on a des résultats. Donc ça permet au planificateur de savoir où il en est et comment les choses peuvent se faire. Donc cette notion de accréditation est importante. Il faut pour ça une agence indépendante qui fasse des accréditations. Et lorsqu'il n'y a pas d'accréditation, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait d'accréditation s'il n'y a pas une maternité, un hôpital de référence. C'est indissociable, hein. La maternité et la structure de référence et le système d'évacuation sont des choses absolument indispensables pour avoir l'accréditation. Voilà. Donc l'accréditation peut se faire pour les maternités et pour les hôpitaux. Et au niveau de la mobilisation des femmes, eh bien, dans un pays où on parle de guerre des femmes, eh bien, on prend ça comme thème. Eh bien, de même qu'on se bat pour la paix générale, la paix des hommes, eh bien, on se bat pour la paix des femmes, supprimer cette guerre des femmes. Ça peut être quelque chose d'extrêmement mobilisateur. Et ça peut se dire alors vraiment dans toutes les langues nationales, et ça c'est fondamental pour que les gens sachent de quoi on parle. Le problème linguistique, il est sacrément important, hein, dans la communication. On utilise les médias, les enseignements, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des enseignements qui soient structurés sur ces questions-là, que ce soit au niveau des collèges et même jusqu'au niveau de l'université, et la mobilisation des associations de femmes. La plupart, tous les pays ont des associations de femmes, voilà un thème pour elles, hein, extrêmement mobilisateur, parce qu'il va falloir gérer au niveau local. Il va falloir gérer au niveau local ces structures d'accueil, hein, puisque ça doit être, c'est pas dans la formation sanitaire que peuvent être faites les maisons d'attente. Il faut que ce soit fait à côté. Alors, autres avantages de l'accouchement en maternité, eh bien, un avantage fondamental, le repos. Si une femme vient passer 15 jours à la maternité à attendre son accouchement, ce sera les seules vacances de sa vie. Et ce repos va être extrêmement bénéfique, indépendamment de ses effets sur la maman, sur le fait que l'accouchement va mieux se préparer, mais même pour l'enfant. Ça va retarder la date de l'accouchement, ça va permettre d'avoir moins d'accouchements prématurés, ça va permettre d'augmenter le poids de l'enfant, or Dieu sait que c'est important dans la survie de l'enfant, et ça va permettre également de procéder de façon tout à fait beaucoup plus simple à l'appréciation des risques, puisque l'appréciation des risques au moment de l'accouchement, c'est plus la grossesse avance, plus on est en mesure d'identifier les risques d'accouchement difficile. Et puis, au moment de la naissance, bien sûr, la femme est là, sur place. Et s'il y a une urgence, eh bien, on va pouvoir s'en occuper. Dans les pays où il y a l'excision, on va pouvoir faire une épisiotomie. Et ça, c'est important, parce que l'une des grandes causes de déchirure est liée au problème de l'excision. Eh bien, une femme excisée, normalement, si on veut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait une épisiotomie. On ne le fera pas au village. Et puis, on va prendre le nouveau-né immédiatement en charge, et ça aura des incidences. Ça permettra de protéger la vie de l'enfant. Et après la naissance, ben, il y a quelque chose auquel moi je suis très attaché, et je m'arrêterai là, c'est le fait que lorsque une maman est venue pour accoucher à la maternité, la veille de son départ, on demande à son mari de venir la chercher. Il faut qu'il y ait un entretien avec la personne qui a fait l'accouchement, toujours la question de chance, de lui dire « grâce à Dieu, grâce à Dieu ». La maman est là, l'enfant est là. Le mari, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire « Alhamdoulilah ». Il va dire « grâce à Dieu ». Dieu est grand. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir dire ben, « maintenant, la maman est là, l'enfant est là, il faut que l'enfant devienne grand ». Et donc, on va établir une relation personnalisée sur la protection de l'enfant. Et là, on va pouvoir expliquer à la maman et au papa tout ce qu'il faudra faire pour que l'enfant devienne grand. Vous savez, je ne connais pas des parents qui n'aient pas envie, des papas qui n'aient pas envie que leur femme, il y en a peut-être quelques-uns, mais j'en connais pas beaucoup en tout cas, la majorité, ils veulent que leur femme s'en sorte au moment de l'accouchement. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je ne connais pas des parents qui ne sont pas prêts à écouter ce qu'on va leur dire. Malheureusement, sincèrement, et là, je me permets de le dire parce que c'est l'avantage que l'on a lorsqu'on parle une langue dominante dans un pays, mais on est mauvais. on est très mauvais. Alors, soyons bons. Voilà, merci infiniment.